Ismaël au Kassai oriental. J'ai repris totalement cette
histoire. Moi, c'est une de combattie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la politique du président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce programme interactif d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. L'exercice parlementaire 2014 touche bientôt à sa fin. La clôture de la session budgétaire est prévue d'ici au 15 décembre prochain. L'heure est à l'évaluation des activités parlementaires et selon certains observateurs, le Parlement n'a plus produit au cours des différentes sessions autant des lois que les contrôles de l'exécutif. Quelle analyse faites-vous de cette évaluation? Vos commentaires et analyses sont les bienvenus sur notre page Facebook. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 63 15. Jean-Claude Tiala est à la technique, César Julie Bongonda et Pierrot et la Mégis sont à la réalisation. Tous vous tiennent compagnie dans ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages sur notre page Facebook par rapport à cette thématique. Jean-Luc Moukoutou, vous nous avez écrit de Lubumbashi, Serge Nyoka, vous êtes à Bandangungu, Jérémy Kiambou de Goma, Jires Kikango et Calmon Kalenga de Lubumbashi. Nous avons également reçu les messages de Martin Patrick Kalamba Mwamba de Kananga, Odax Rougué Dabaga Moulikazi de Maniema, Ben Etokwa et Dems Gary de Nord vous, Francis Mbombo et Jules Max Mbouyou de Lubumbashi, Franck Mboni de Vienne. Mesdames et messieurs, encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons en ligne notre invité, le professeur Willy Makiachi. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes honorable député national et secrétaire permanent et porte-parole du PALU, parti Lumumbis unifié, voilà, les partis de la majorité présidentielle. Vous êtes avec nous aujourd'hui, s'il faut faire quand même un bilan de l'exercice parlementaire 2014, quel peut être le résultat?
Le résultat, vous l'avez dit en prélude lorsque vous annonciez les thèmes de l'émission. Vous avez dit qu'il y a eu plus de production des lois qu'il n'a été question du contrôle parlementaire. Mais il a fallu peut-être mentionner, c'est bien vrai que la production des lois par rapport à la production législative, il n'y a presque pas à beaucoup reprocher au Parlement, essentiellement à l'Assemblée nationale. La production des lois est effective, elle est abondante, et beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de lois, les instruments législatifs pour la gestion de la chose publique ont été mis en place, et cela à faciliter un certain nombre de choses et d'autres vont être facilitées pour avoir déjà une base, cette assiette juridique qui doit régenter les choses. Mais par rapport au contrôle parlementaire, parce que c'est là que se pose beaucoup plus la question, les contrôles parlementaires, vous savez, si je peux, dans l'histoire des parlementaires de notre pays, partir des deux dernières législatures, donc la première législature de la Troisième République et la deuxième législature de la Troisième République, celle qui est en cours, je peux partir de l'Assemblée que dirigea le président Tamere. Il décria justement les contrôles parlementaires qu'il a traités de faiblesse. Et lorsque nous en arrivons au professeur Évariste Bochab, qui lui également président au destiné de l'Assemblée nationale, il parla, il traita les contrôles parlementaires comme des ventres mous. C'était l'expression. Il y a peu à la rentrée parlementaire et dont la session budgétaire est en cours, le président Obemina, le président de l'Assemblée nationale en exercice, n'a pas manqué de rappeler que depuis, le contrôle parlementaire a accusé beaucoup de faiblesses, mais que pour cette fois-ci, nous allons partir du contrôle parlementaire pédagogique, simplement formel, pour un contrôle parlementaire méticuleux et rigoureux. Donc voilà que et tous les gestionnaires et les parlementaires eux-mêmes reconnaissent la faiblesse qui émaille le contrôle parlementaire. Mais aussi, il faut dire que de part et d'autre, il y a des problèmes. Comment est-ce qu'on conçoit les contrôles parlementaires? Mais quel est l'objectif du contrôle parlementaire? Lorsque vous allez du côté de l'opposition et peut-être d'une certaine opinion, on considère que le contrôle parlementaire, il ne s'agit qu'à contrôler l'exécutif qui est le gouvernement, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement central. Non, ça ne se limite pas là. Le contrôle parlementaire s'exerce sur tous les services publics, partant bien entendu du gouvernement qui régente tout le reste des secteurs publics. Alors, mais le contrôle parlementaire ne signifie pas non plus d'échoir nécessairement le gouvernement par le chef du gouvernement ou les membres du gouvernement. Ça en est une des sanctions. Mais l'objectif visé n'est pas d'avancer. Et même quand on arrive à déchoir le gouvernement par le chef du gouvernement ou le un membre ou quelques membres du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on vise? On vise l'amélioration. Le contrôle parlementaire vise l'amélioration de la gestion de la chose publique par le gestionnaire de cette chose publique. Mais pour corriger la gestion, alors il y en a qui considèrent que lorsqu'un membre du gouvernement est interpellé, il doit finir par quitter le gouvernement. Non, c'est déjà faux. C'est une des sanctions, mais elle n'en est pas l'unique. Et il y en a qui considèrent que le contrôle parlementaire, c'est un exercice où les autres doivent, certains doivent s'exhiber pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Mais on n'a pas encore obtenu les résultats escomptés parlant du contrôle parlementaire. Donc c'est un exercice à faire. D'abord, il faut qu'il y ait une compréhension nette que l'objectif est d'améliorer la gestion.
Tout à fait.
À par le biais de ceux qui gèrent. Et il n'y a pas que le premier ministre qui gère. Il n'y a pas que les membres du gouvernement, ministre, vice-premier ministre et vice-ministre qui gèrent. C'est en amont, c'est vrai. Mais les recteurs des universités, les gestionnaires d'entreprises, tous les secteurs publics possibles, les bourgeois, tout le monde, les administrateurs des territoires, mais le contrôle parlementaire n'est pas
là. Là.
Tous les autres gestionnaires des services publics considèrent qu'ils sont exemptés du contrôle parlementaire. Et ça, c'est la responsabilité du Parlement, des parlementaires. C'est eux qui n'exercent pas le contrôle parlementaire auprès. Mais les fiscs, lorsqu'on dit qu'il y a évasion fiscale, il y a hémorragie, il y a ceci. Mais est-ce qu'on contrôle tout ce monde-là? Tous ceux qui gèrent par-ci, par-là. Mais on ne contrôle que les ministres qui, eux aussi, suivent la gestion et des services techniques qui doivent concourir à la maximisation des recettes, à la stabilisation des choses et tout.
Voilà,
il faut d'abord cela. Ça, c'est des efforts à faire de part et d'autre. La compréhension du contrôle parlementaire, l'objectif à atteindre, la manière de le faire.
Donc,
au niveau de l'exécutif même, il y a déjà aussi un contrôle qui flèche. Alors, un ministre qui est en faux, comme Cahuzac qui est en France, on lui demande de démissionner déjà, avant que ça n'arrive au Parlement. Mais chez nous, pour la plupart des cas, lorsqu'un ministre est interpellé, la motion, c'est pour le démettre. Mais démettre tout le temps aussi n'est pas la solution.
N'est pas la solution.
Mais il faut plutôt chercher à corriger. Donc, les faiblesses, il y en a de part et d'autre. L'opinion ne maîtrise pas ce que c'est. Mais le Parlement ne fait pas assez pour atteindre les objectifs visés par le contrôle parlementaire, qui pourtant, sans lesquels la gestion de la chose publique ne sera pas au point.
Voilà, avant d'ouvrir les standards, pour permettre à ce que les auditeurs puissent réfléchir ensemble avec nous, professeur Willy Amakashi, vous êtes secrétaire permanent et porte-parole du PALU, qui est un parti membre de la majorité présidentielle, qui est aussi la majorité au niveau du Parlement. Selon vous, quelles peuvent être les raisons de cette faiblesse dont vous évoquez par rapport au contrôle parlementaire? Quelles sont les vraies raisons?
Parmi les raisons que l'on peut évoquer, elles ne vont pas être exhaustives dans cette évocation, mais les raisons sont d'abord comportementales, parce que la refondation de l'État congolais part de la refondation du Congolais. Le président Kabila l'a dit dans l'une de ses allocutions. D'abord, le mental congolais. Le mental congolais, tous les problèmes est là. Et bébé, il y a un problème d'expérience parlementaire et d'expertise parlementaire. Est-ce que les parlementaires qui s'exercent à cette tâche maîtrisent-ils d'abord ce que c'est? Parce que je venais de dire, donc les raisons sont d'abord des faiblesses comportementales. Et on ne sait pas ce qu'on doit faire pour les objectifs à atteindre. C'est peut-être la chasse à l'homme, c'est peut-être un exercice formel d'un parlementaire qui veut s'exercer, qui veut s'exhiber, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Ça, c'est déjà une faiblesse dans la compréhension des choses, dans les comportements. L'autre faiblesse Et je pourrais dire, parce que tout le monde dit, nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes une jeune démocratie. Bon, pour moi, je ne dis pas tellement ça de cette manière-là, mais nous sommes une jeune démocratie, bon, dans une certaine mesure. Mais pourquoi devons-nous toujours continuer à être jeunes? Mais nous ne sommes pas des jeunes êtres humains. Nous ne venons pas d'apparaître sur la terre comme Congolais. Est-ce que nous sommes les derniers de la dernière apparition de l'être humain sur la terre pour que nous soyons les plus jeunes? Mais pourquoi nous devons toujours nous targuer de cette jeunesse? Alors, ça dit, nous sommes toujours une jeune gestion, une jeune expertise. Mais est-ce que nous sommes toujours aussi des jeunes intellectuels dans la gestion? Parce que ce sont les intellectuels qui gèrent, ceux qui maîtrisent la gestion, qui ont l'expertise, qui l'ont apprise. Nous sommes aussi des jeunes intellectuels, nous sommes aussi jeunes dans notre comportement, ou bien nous ne sommes jeunes que dans la démocratie, parce que depuis 1960, l'État congolais naquit en 60 à la session tout. Mais depuis 60, la démocratie a vu le jour. Nous le savons, c'est de l'histoire. Mais depuis 1960 à ce jour, même s'il y a eu des perturbations, nous continuons à être toujours jeunes. Mais pourquoi nous ne décidons pas dans ce que je laisse de mieux faire?
Voilà.
Alors, est-ce que sommes-nous jeunes comme démocratie ou sommes-nous jeunes comme experts? Est-ce que notre expertise est toujours jeune? Donc, les faiblesses, comme je l'ai dit, sont d'abord comportementales.
Et puis,
de la vision même de la chose à faire. Et les faiblesses sont là. On ne maîtrise pas les choses. On ne les fait pas de maître. Les objectifs doivent être difficiles à atteindre.
Voilà.
Mais les faiblesses, d'autres faiblesses aussi.
081-893-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons les standards pour accueillir Papy. Maître Papy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour aussi à l'invité.
Vous avez la parole, Maître Papy. Comment vous analysez cette évaluation faite par plus d'un observateur en disant que le Parlement, dans son exercice parlementaire 2014, n'a plus produit au cours des différentes sessions autant de lois que le contrôle de l'exécutif?
Oui, merci, M. Gilles. Je crois que cette remarque est concrète et n'est pas démontrée, comme l'a avoué même l'honorable Kouzi Makiachi. Par rapport d'abord à la mission de légiférer, monsieur les journalistes, il ne faut pas se limiter tellement à produire les œuvres législatives. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire, après avoir légiféré, le Parlement doit prendre les mesures d'application de ces lois-là. En plus de cela, il faut que le Parlement puisse contrôler le gouvernement à tout moment par rapport à la vulgarisation de la loi. Monsieur le journaliste, si aujourd'hui on peut avoir une litanie de lois dans les tiroirs du Parlement et que ces lois ne sont pas appliquées et elles ne sont pas connues du grand public, à quoi servent ces lois? Donc c'est mieux que le Parlement plutôt puisse mettre l'accent sur ça. Après avoir adopté les lois, ils doivent contraindre le gouvernement qui est le gestionnaire de l'État pour amener ce gouvernement-là à vulgariser ces lois-là pour sa bonne application au niveau de la population.
Voilà, merci beaucoup Maître Papy d'avoir appelé les Kinshasa.
Je voulais encore ajouter quelque chose par rapport au contrôle.
Oui.
Monsieur le journaliste, il faut encore, au-delà du contrôle parlementaire qui est le contrôle politique, il faut le contrôle aussi par la Cour des comptes. Ce contrôle-là doit être permanent, il doit être régulier, il doit être concret, parce que nous nous rendons compte que les comptables publics, soit des faits ou des droits, ne sont pas à tout moment contrôlés. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Papy. Pour vous, en tout cas, la mission de légiférer revient, c'est la mission quand même régalienne de l'Assemblée nationale ou encore du Parlement, mais le problème se pose au niveau des mesures d'application. C'est vrai, il faudrait quand même que ces parlements puissent arriver à contraindre le gouvernement ou l'exécutif à pouvoir proposer des mesures d'application afin d'amener la population à être sensibilisée et vulgarisée par rapport à toutes ces lois. Vous avez dit une litanie des lois, à quoi ça sert si elles ne sont pas connues du public? Il faudrait quand même que les parlements fassent un effort pour quitter les contrôles politiques pour aller au-delà. Merci beaucoup. Jérémy, vous êtes à Goma. Bonjour.
Oui, c'est Jérémy Tiambo depuis Goma. En fait, je salue d'abord les auditeurs de Radio Capi, je vous salue, je salue aussi les invités. Mais, j'ai suivi les interventions des autres depuis les invités, mais moi je m'attelle beaucoup plus sur le contrôle parlementaire.
Jérémy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous donner votre conception du contrôle parlementaire? Quand vous avez le contrôle parlementaire, ça veut dire quoi?
Moi, à mon niveau, le contrôle parlementaire, on ne peut pas parler dans notre parlement là. Ce n'est pas un contrôle parlementaire, plutôt c'est du mascarade.
Les
députés sont devenus très des indices de corruption. On en a parlé.
Oui, c'est peut-être vous qui avez des preuves, mais moi je vous pose la question de savoir comment vous concevez le contrôle parlementaire. Est-ce que le contrôle parlementaire, selon vous, se limite à des motions de défiance qui font tomber certains membres de l'exécutif? Ou pour vous, les contrôles, c'est faire le suivi pour voir, comme l'a dit notre invité, l'amélioration de la gouvernance?
Oui, le contrôle parlementaire, ça s'inscrit dans le cadre que disent les intervenants précédents. Mais nous avons constaté que l'Assemblée nationale s'est devenue une caisse de résonance du pouvoir exécutif.
Mais
c'est devenu des applaudisseurs.
Oui, mais pour vous,
ces députés, on les a
Jérémy, pour vous, quel est le standard? Ça devait être comment au niveau du Parlement? Ça devait être comment au niveau du Parlement?
Oui, ça pourrait être de la manière que, oui, certainement. Mais nous savons que certainement que ça pourrait être de corriger les erreurs. Donc le contrôle, ce n'est pas simplement dire sanctionner.
Oui.
Ça peut être aussi un contrôle positif et corriger des erreurs. Mais malheureusement, chez nous, on trouve des députés qui sont étonnants, des ministres qui sont totalement fautifs. Mais je ne sais pas si c'est une alliance ou quoi.
Voilà, merci beaucoup Jérémy, merci. Merci parce que là, je crois qu'il en vaut aussi pour d'autres auditeurs qui vont intervenir de nous dire un peu la façon, la conception, en tout cas, selon les, comment ils perçoivent la notion du contrôle parlementaire. Ils pensent que le contrôle parlementaire doit nécessairement aboutir à des sanctions négatives, des sanctions pour quitter le gouvernement, ou peut-être c'est autre chose. Donc, merci beaucoup, Jérémy. On va prendre Omar qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour JR et merci du verbe d'avoir vous m'accueillir.
Vous avez la parole. Quelle analyse faites-vous de cette évaluation proposée par plus d'un observateur?
Merci beaucoup JR. Dès les liminaires de ma sollicitation, je voudrais m'acquitter des devoirs agréables qui consistent à saluer M. Uli Makesh, qui m'a enseigné quand j'étais encore en deuxième graduat. Je suis fier de l'avoir eu comme professeur. J'ai fait également bien l'intervention pertinente de mon estimé confrère Papi. Et moi, je pense dire que, à mon avis, le bilan de cet exercice est mitigé, dans la mesure où il y a quand même des points positifs qu'on peut louer et des points négatifs qu'on peut décrier. Notamment, cette année, comme on l'a dit, les lois ont été produites. Mais comme nous l'a toujours enseigné le prof Willy Makiachi, la loi est un besoin populaire. La loi répond à un besoin. C'est l'expression de la volonté populaire. Donc, il est donc normal, il est séant, on puisse voter des lois lorsque le besoin se présente. Et notamment, on a eu des lois sur les zones économiques spéciales, il y a eu 5 lois de ratification, il y a eu proposition de loi portant statut des anciens présidents. Dans un État qui se veut une jeune démocratie, ça ne peut pas être normal. Mais là où les bas blessent, c'est au niveau des contrôles. Je crois que vous avez beaucoup interrogé mon prédécesseur. Exactement ce qu'est le contrôle? Parmi les caractéristiques d'un État des droits, il y a aussi les contrôles des actions du gouvernement. Les contrôles peuvent être politiques, il peut être juridictionnel, c'est-à-dire lorsqu'il est fait par le juge. Mais lorsqu'il est fait par le Parlement, il est politique. Quelle est la moralité? Il est question que le peuple interroge ce à qui il a accordé un mandat, c'est-à-dire le gouvernement. Nous vous avons accordé un mandat, rendez-nous compte de votre gestion. Et puisque le peuple ne veut pas directement interroger les ministres, cela passe par les députés nationaux.
Mmh.
C'est la moralité. Il est question de rendre légal et rationnel la gestion du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas gérer comme dans une jungle. Il faut que l'on vous contrôle, contrôler, c'est-à-dire vérifier si les actions par vous posées sont conformes aux normes établies. Et lorsque cela n'est pas respecté, c'est là, en ce moment, qu'on peut aboutir à la sanction. Mais hélas, dans notre pays, qu'il y ait des faits évidents ou pas, la santé n'a jamais été existée. Je vous donne des cas pour cet exercice. L'on a convoqué l'ADG de la SNEL, l'on a également interpellé les ministres Moussonga et ministre Kipedi. Sur 100% des Congolais, il n'y a que 10% des Congolais qui ont l'électricité. Alors que le mandat qui lui a été donné était de relever même jusqu'à 20%. Mais lorsqu'on n'a pas été à l'auteur de la mission qu'on vous a confiée et que votre gestion a été critiquée, pensez-vous qu'il ne faut pas donner des sanctions? Je ne voudrais pas revenir sur les cas de Moussonga et Kipedi parce qu'on a
oui, la oui, oui, Omar, comment jugez-vous en fait, c'est ce paradoxe hein, que relèvent certains observateurs en observant donc les contrats de performance signés par les certains membres du gouvernement au début de leur exercice par le Premier ministre qui les a amenés à Zongo et aujourd'hui avec le contrôle parlementaire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un hiatus, il y a un grand trou, il y a vraiment un paradoxe comme le pensent certains observateurs?
Oui, il y a un paradoxe dans la mesure où, moi je pense que s'il y a ces paradoxes ou s'il y a non-concrétisation, c'est parce qu'il y a impunité. Aussi longtemps on ne sait pas punir ceux qui gèrent mal, ils vont compter dans la même allure. Et je voudrais aussi répondre à ce que les profs ont dit, c'est un problème comportemental. Lorsqu'on vous donne la gestion d'un État, vous devez le faire en toute responsabilité. Ce paradoxe est dû exactement à la non-sanction et à la non-vérification. Et je voudrais aussi faire mienne ce que les profs ont dit sur le vote sentimental. Moi, je me demande si vraiment des députés ont étudié. Prenez les cas du code minier GR, si vous les lisez.
Non, mais oui, ayons quand même le respect vis-à-vis de ces députés. Bon, c'est une question, bien entendu. Mais quand même, je crois, par rapport à l'élection législative, les élections législatives, il y a eu des conditions. Certains, en tout cas, j'imagine, parmi eux, ont rempli ces conditions avant d'accéder à l'hémicycle, au bas.
Oui, au nom de...
Parce que la condition, c'était le minimum, avoir un diplôme d'État.
Oui, je retire. Excusez-moi, oui. c'était le patriotisme qui m'a parlé ainsi. Je ne voulais pas respecter les gens envers les auditeurs. Je voudrais surtout parler des votes sentimentales. Si vous lisez les codes miniers, vous allez vous rendre compte que ces codes présentent beaucoup d'incongrues pour les peuples congolais, beaucoup de désavantages. Mais je demande, avant de voter, l'ont-ils lu? Prenez encore les traités de l'OADA. Je vous donne seulement un cas. Pour tous les opérateurs économiques congolais, lorsqu'il y a une cassation, il faudra s'y rendre en Abidjan. Est-ce que tous les opérateurs économiques ont des moyens pour le faire? On se rend compte qu'on impose des lois et on ne les vote pas par toute responsabilité. Voilà pourquoi je finirai par proposer ce qui suit. Il faudra que le parlementaire de la majorité présidentielle sache qu'ils ont été élus par le peuple. Ils n'ont pas pour but de satisfaire les désidérata du chef de l'État, mais ils doivent soutenir son programme si celui-ci soutient le peuple congolais. À ceux de l'opposition, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. L'indifférence tue. Il faut agir et proposer des solutions. Et je voudrais finir, je pense même le prof qui est fonctionnaliste pourra me compléter. Moi, je pense qu'on doit accorder aux sénateurs des pouvoirs sanctionnateurs. Parce que les sénateurs n'ont pas des pouvoirs de sanction, ils n'ont que des pouvoirs de recommander. Moi, je pense que le Sénat est une haute instance remplie de sagesse. Qu'on accorde à ces gens des pouvoirs de sanction, et je pense que lorsqu'il y aura sanction, lorsqu'il y aura recommandation appliquée, on aura quand même un Parlement responsable. Nous ne critiquons pas nos parlementaires, mais nous décrions le fait que les contrôles ont toujours été initiés, même s'il n'y a pas de sanctions GR, mais ne serait-ce que les recommandations fournies.
Les recommandations pour améliorer la gouvernance.
Voilà. Cela, mes propositions JR, en tout cas, j'ai dit, je vous remercie.
Merci, Maître Omar, d'avoir appelé les Kinshasa. Pour vous, le bilan est plutôt mitigé. C'est vrai, il y a pas mal de lois qui ont été votées et promulguées. Mais voilà, la loi répond, comme vous l'avez dit, à un besoin. Sûrement, il y a eu des besoins. Vous avez évoqué, par exemple, le cas de la loi sur la zone économique spéciale et tant d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez développé la thèse selon laquelle que le contrôle parlementaire est caractérisé par des contrôles politiques et aussi des contrôles juridiques. Mais à ce niveau, il faudrait quand même qu'il y ait sérieux. Vous avez en majeure partie soutenu le point de vue de l'invité de tout à l'heure, professeur Willy Makiachi. On va prendre un autre avocat qui nous a rejoint dans ce débat, Maître Josué de Mbujimaï. Maître Josué, bonjour. Maître Josué.
Oui, je suis à l'écoute, M. Josué.
Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à cette thématique, par rapport à...
Alors, M. Jurel.
Oui, quel est le bilan que vous formulez donc par rapport à l'exercice parlementaire 2014?
Oui, merci, M. Juer, de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi avec tout intérêt, d'abord le professeur, qui est le député national, et j'ai suivi les autres intervenants. Moi, si je voulais intervenir, M. Juer, c'est au niveau des missions du Parlement. Parce qu'apparemment, le professeur va prévoir, il s'est félicité, pour que, par le fait que le Parlement a produit beaucoup plus de lois et de ses côtés positifs. Et ça aussi, oublier que le contrôle parlementaire, c'est un contrôle aussi purement très important. Parce que ces lois qu'ils sont en train de mettre sur place ou qu'ils sont en train de voter, ce sont des lois qui doivent être appliquées. Et même la loi des finances, la loi des finances doit être appliquée. Au moment où la loi n'est pas appliquée, les contrôles sont nécessaires. Monsieur Juer, vous allez vous rendre compte, aujourd'hui dans notre pays, nous sommes dans un état où nous avions des sérieux problèmes. Mais nous nous posons la question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de fonds, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens qu'on a mis en disponibilité? Non, il y a des moyens mis en disponibilité, il y a des fonds, il y a des recettes, mais il n'y a pas un contrôle efficace. Si on se met d'accord avec le professeur, l'article 127 de la loi sur le finance, c'est donne le pouvoir au Parlement d'exercer un contrôle, et c'est un contrôle a posteriori. C'est-à-dire, hormis les autres contrôles, les contrôles juridictionnels par la Cour des comptes, les contrôles administratifs, et il y a des contrôles parlementaires. C'est le contrôle qui est très important, qui intervient à voir les votes des projets de loi de révision des comptes. Mais si, avec tout ce qu'ils ont comme expérience du temps des caméras, on a compris que c'était des commissions qui étaient du fort du temps du président Bouchard. Aujourd'hui encore, il a dit que le président Obenyenaku l'a répété. C'est-à-dire, on semble ignorer la force du Parlement dans la mission du contrôle. Parce qu'on voit qu'on envoie des gens sur le terrain, le Parlement, les parlementaires sur le terrain, ils ne font pas le travail, ils ne font pas les contrôles comme ils le veulent, parce qu'ils se fouent à des offres qui sont faites par ceux qui ont détourné les fonds de la République, ceux qui ont détourné l'argent mis à leur disposition. Vous allez le voir même avec nous. Les parlements, les députés de l'opposition, ils ont une autre conception du contrôle parlementaire. Et les députés de la majorité, ils ont une autre conception, ou il y a une autre conception du contrôle parlementaire.
Maître José, s'il vous plaît.
Allô?
Oui, Maître José, alors vous avez quelle conception du contrôle parlementaire?
Le contrôle parlementaire, comme je le disais, les députés de la majorité, quand ils ont la conception, c'est de sauvegarder ce qu'ils font pour eux. Il faut sauvegarder même ceux qui ont détourné l'argent. Et pour le fait de l'opposition, ils vont nécessairement arriver à démontrer ceux qui ont détourné l'argent et le mettre à la disposition, et les sanctions, les sanctions, les autres, les sanctions dans notre pays, en dehors des autres assemblées provinciales qu'on cite, les courages, entre autres l'assemblée de Kananga et les autres, mais les restes,
on va revenir quand même sur les assemblées provinciales. On va faire aussi les bilans sur les assemblées provinciales dans les jours à venir. Merci Maître José, hein, Jésus, d'avoir appelé et surtout de nous avoir soulevé cette question, parce que c'est vrai au niveau du débat par rapport à cette thématique. On s'était dit, bon, nous restons d'abord dans l'exercice parlementaire, Assemblée nationale, Sénat, et puis bon, on va étendre les débats par après. Pour les assemblées provinciales. Merci beaucoup. On va prendre les derniers auditeurs de cette série. Avant de revenir à notre invité Willy Makiachi, qui est le secrétaire permanent et porte-parole de Palou et parti membre de la majorité présidentielle et majorité du Parlement. François, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, le GR.
Vous avez la parole, Botin.
J'interviens à partir de l'Oumbashi GR. Je voudrais tout simplement dire que le résultat est mitigé pour l'année 2014. Il n'y a pas de parlement pour l'opposition ni pour la majorité. Il y a un seul parlement pour tous les Congolais. Et c'est pourquoi j'interpelle quand même tous ceux qui sont dans cet hémicycle de pouvoir enfin prendre en charge tous ces désirats donc du peuple congolais. Les Congolais veulent que les parlementaires qui les représentent là-bas, l'image du Congolais qui est à l'extérieur. Mais si ils doivent normalement considérer peut-être leur position politique pour pouvoir enfin défendre les autres qui ne travaillent pas bien, ça ne va pas donc nous arranger, nous le peuple. Et ce que je leur propose, ce sont des hommes, ils ont des faiblesses, mais qu'ils rejettent leur opposition et qu'ils se mettent au travail. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner. Mais s'il faut sanctionner avec un sentiment de dire qu'il est de l'opposition ou du pouvoir, moi je sais que le gouvernement qui est là, c'est le gouvernement du pouvoir.
Oui, mais Fossel, il y a tout de même, comme l'a reconnu notre invité et certains de vos prédécesseurs, des faiblesses au niveau du contrôle parlementaire. Néanmoins, il y a quand même un point positif de la production législative. On a produit autant de lois qui pouvaient peut-être servir, en tout cas, à la population dans l'avenir.
Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est mitigé. Ils ont produit des lois, bien sûr, mais il faut qu'ils mettent ces lois en pratique. Pas plus tard qu'hier, là. Nous avons un problème avec l'étudier. Si vous regardez, vous allez voir que le code n'est pas respecté. Le code qu'on a mis en place, on ne respecte pas et nous serons peut-être rejetés ou pas. C'est pourquoi j'ai dit que quand ils sont là-bas, qu'il n'y ait plus de complaisance, ils ont bien travaillé sur le loi, mais l'application devient difficile pour eux. Et pourtant, ils ont toute la possibilité de pouvoir en faire
actuer.
Mais moi, parce que vous dites que nous allons parler des parlements provinciaux, et des assemblées provinciales plutôt, je dirais que c'est à la base. Si, au plus haut niveau, elles ne se mettent pas à travailler comme il faut, à la base, c'est pire. Nous, ici, nous voyons autre chose. Hein. C'est pire parce qu'il n'y aura plus donc de punition dans les provinces. C'est pourquoi je voudrais qu'eux puissent montrer un bon exemple là-bas pour que même à la base, qui est la base de la province, qui est une cellule de ce Parlement-là, puisse aussi bien fonctionner sans pour autant avoir de position.
Merci beaucoup, Fossa, d'avoir appelé. On va prendre Franck de Vienne. Franck, vous êtes à l'Autriche. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité et aux amis avec qui nous échangeons.
Voilà, vous avez dit lorsque vous avez écrit qu'à chaque session parlementaire, notre chambre basse s'oblige parfois de s'acquitter de l'une de ses missions les plus essentielles par rapport à ses attributions, celle de légiférer, de voter des lois, devant régir les affaires courantes de la vie nationale. Mais pour une chambre basse qui se veut crédible et responsable en démocratie, l'intégralité de ses prérogatives est aussi dans le contrôle de l'exécutif et de l'ensemble des activités de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Franck?
Merci beaucoup pour l'expression. Je veux peut-être réagir par rapport à ce que notre invité venait de dire. Lui, il est en train d'intervenir comme juriste constitutionnaliste, je suis en train de le sentir. Moi, je suis dans le domaine sociologique. Monsieur l'invité, nous savons tous que chaque loi qu'on vote dans un parlement à un contexte d'émergence et doit répondre par rapport à certaines urgences de vie. Je viens de vous suivre. Vous avez quelque part dit que quand il y a des motions, l'alternative de démission n'est pas toujours la solution. Jusque-là, je suis encore d'accord avec vous. Donc, moi, je vous pose seulement la question. Quand vous dites que on a produit autant de lois qui peuvent servir le peuple congolais à l'avenir. Ça signifie quoi donc? Pour le moment, on peut produire des lois, lesquelles ne peuvent pas être respectées maintenant. On va seulement les respecter à l'avenir. Pourquoi? Parce que.
Mais
quand une loi est votée, cette loi doit être appliquée dès l'instant même où elle vient d'être votée. Alors, la loi doit être appliquée quand il y a des flagrance qui se manifeste de quel sens avéré, par rapport au contexte dans lequel cette loi doit être correctement appliquée. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Il y a des lois qu'on vote, il y a des débats qu'on organise, mais il y a parfois des flagrants qui sont là manifestes, mais lesquels ne conduisent pas à des débats de sanctions. Monsieur le journaliste, un débat parlementaire, je veux revenir sur cet aspect, un débat parlementaire, ce n'est pas un théâtre. Donc, quand on débat une situation au Parlement, ça doit vraiment relever de l'intérêt suprême de la nation. Alors là, je crois, le maître Omar venait de l'expliciter, il y a des compatriotes, des avocats qui ont dit beaucoup dans ce domaine. Je crois que ce que nous décrions, c'est l'aspect théâtral qu'on veut intégrer dans le débat parlementaire. Donc, dans certains pays, quand il y a déjà des flagrances manifestes, le ministre ou les citoyens, les responsables concernés s'assument, soit en présentant sa démission, soit vraiment il y a une liste de conséquences qui s'assurent, quoi. Mais ce qui frappe, ce qui touche, ce qui fait mal, c'est quand on arrive à appliquer un sophisme devant une situation qui nécessitait une sanction. Et là, je crois qu'on ne doit pas confondre le Parlement à une salle de théâtre. Le Parlement vote des lois pour l'avenir de l'État. Les députés sont là comme la bouche, les oreilles et les yeux du peuple. Mais les députés ne sont pas là pour aller organiser des scénarios au nom de ce peuple qui leur avait donné ce mandat-là. Je suis d'accord par rapport à tout ce qui dit. Mais depuis 2006, est-ce qu'on peut nous dire combien de fois on a organisé des débats de sanctions au sein du Parlement national? Est-ce que c'est vraiment, on va nous dire que depuis 2006, on n'a jamais eu de situation vraiment en flagrant avec des preuves?
Oui, Franck. Non. Oui, Franck. Nous savons que... Oui, Franck. Notre invité l'a reconnu en citant des exemples et même les soucis qu'ont animé les différents présidents de l'Assemblée nationale qui se sont succédés, en commençant par Caméré, en passant par Bouchab et aujourd'hui avec Obeminaku. Tous ont reconnu qu'au niveau de ce volet, il y a eu beaucoup plus de contrôle pédagogique, mais que l'ère est arrivée pour qu'on passe quand même au contrôle rigoureux, au contrôle sanction, au contrôle débat.
Monsieur le journaliste, je peux comprendre ce que vous dites là, mais je peux objecter d'une autre manière. Comment vous allez me répondre, vous, en tant que modérateur de l'émission, que le même président de l'Assemblée exige le contrôle sanction, et que quand il y a une motion qu'on dépose, et que le même président puisse encore être parmi les gens qui demandent aux députés de voter sur des consignes de la demeure de sa majeure politique. Même c'est parce que voilà que nous devons nous attaquer à la protection même de l'idéal de la démocratie. Donc moi je trouve que personnellement, ça ne suffit pas de nous dire que tel président a dit ceci, tel président a dit cela, parce que nous savons que quand il y a une motion qu'on dépose, si cela va à l'encontre des intérêts de tel cartel politicien, donc il y a des consignes qui se donnent. C'est à ce niveau-là que moi je dis, le Parlement, la Chambre basse, ce n'est pas une salle de théâtre.
Merci.
Donc quand il y a une motion qui est déposée, on doit la traiter avec l'objectivité qu'il faut et selon les attentes du peuple. Parce que quand on est député, on n'est pas seulement député pour un groupe, pour son parti, on est député pour le peuple. Et le peuple forme une unité, c'est un ensemble. Alors, quand on doit aller voter au nom du peuple, suivant les consignes qui parfois sont à l'encontre des intérêts de ce même peuple, vraiment là, j'ai dit, on doit encore repenser l'intégralité de la perception et de la conception que nous nous faisons de l'idéal démocratique. Sinon, ça ne sert pas. Ça ne sert pas qu'on aille voter avec les consignes, parce que chaque député doit se dire qu'il a reçu le mandat du peuple et il est là comme l'oreille, la bouche et les yeux de ce peuple.
Merci.
Il doit le défendre.
Voilà,
et s'il n'arrive pas à le faire, il doit se poser au tas de questions pour toi de là.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé pour ce volet. Vous avez dit que ce volet n'a jamais été correctement appliqué, du moins s'il faut parler de son application. Les prédécesseurs l'ont dit également. On verra la réponse que donnera notre invité. Merci beaucoup. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Si vous êtes arrivé sur les ondes des Radio Okapi, notez que vous suivez bel et bien Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Merci encore de votre fidélité à cette fréquence de la paix. Professeur Willy Makiachi, honorable député, secrétaire permanent et porte-parole du PALU, parti membre de la majorité présidentielle, vous êtes notre invité, vous avez suivi cette série des auditeurs. Voilà, alors comment vous réagissez d'abord?
Oui, merci beaucoup, J.R. Vous êtes revenu de plusieurs fois sur le parti Lumis Unifié, parti de la majorité française, parti du Parlement. Donc voilà, il faut fixer le parti Lumis Unifié, PALU, est membre de la majorité parlementaire. Également majorité présidentielle, mais pas la majorité présidentielle à charte. Donc la majorité présidentielle qui réunit des centaines de partis politiques, signataire d'une charte, non, celle-là, le parti n'en fait pas partie, le PALU n'en fait pas partie, mais évidemment, il est membre de la majorité parlementaire dans le sens où c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a été candidat soutenu par le PALU. Donc, à ce titre, c'est la majorité présidentielle la plus globalisante. Donc, c'était une mise en point, mais beaucoup plus majorité parlementaire. Alors, par rapport aux préoccupations des auditeurs, vous avez suivi que tout le monde, même le tout dernier, notre compatriote de la diaspora qui intervient et tout le monde, Maître Omar, et tout le monde est revenu sur la question. Le constat est là, mais nous n'allons pas rester toujours au constat. Tout est décrié de cette manière. On reconnaît les efforts, on reconnaît également les faiblesses. Ça signifie dans tous les cas que ce n'est pas l'hécatombe qui nous arrive, nous ne sommes pas en train de régresser peut-être, mais du moment où nous reconnaissons dans la gestion de la chose publique, depuis que la démocratie a commencé à voir le jour, nous reconnaissons qu'il y a des points forts et qu'il y a également des points faibles. C'est déjà quelque chose d'important pour que nous puissions, à partir de tout ce que nous reconnaissons comme faiblesse, nous puissions amener notre gestion à l'amélioration. Alors, nous devons arrêter de continuer à verser nos faiblesses dans la corbeille de la jeunesse de la démocratie de notre pays. Non, j'ai dit oui. La démocratie est jeune chez nous, du fait que c'est un processus et qui a été perturbé et qui revient à la surface, c'est vrai. Mais le gestionnaire, l'expertise, est elle aussi jeune. Hier, on a dit l'armée, et même l'armée, elle naquit aussi avec l'État congolais qui naquit en 60 aussi. Et tous ceux-là de 60 ne sont plus là comme généraux, comme l'État aussi. Mais comment est-ce que lorsqu'on a reconnu les faiblesses de notre armée, à quel moment, dans quelques jours, dans quelques semaines, notre armée a atteint la maturité pour défaire les antivaleurs qui perturbaient la quiétude et la gestion normale de la nation? Comment l'armée est passée à cette vitesse de croisière? C'est parce que le gestionnaire, le commandant suprême des forces armées, le président de la République qui est le premier des gestionnaires, a pris les choses en main. Il a reconnu là où il y avait des faiblesses et parmi les faiblesses, il les a décelées de plusieurs manières. Alors, pas parce qu'il a décelé les faiblesses et que le pendule était remis à l'heure, le résultat était atteint et nous sommes dans la gestion de l'atteinte de ces résultats, qui n'est pas encore 100%, mais du moins, l'essentiel a été fait, nonobstant béni et tout, mais voyez ce que l'armée est devenue aujourd'hui. Ce n'est plus une armée sur laquelle n'importe qui peut dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes intervenus en Centrafrique et ailleurs. C'est le vent en poupe qu'on reconnaît à notre armée et donc au président de la République qui en est le commandant suprême. C'est là en est autant, c'est une gestion aussi, un secteur un domaine de la vie nationale, l'armée. Mais pourquoi dans les domaines des finances, dans les domaines de l'éducation? Notre intervenant parla de l'aspect sociologique, mais il a bien raison. Tout parle de là. Lorsque je parlais du comportement, de la nature comportementale, c'est également sociologique. Parce que même en droit constitutionnel, le professeur Elkité Tekikumba, d'heureuse mémoire, nous disait à toute question, il faut toujours savoir poser la question, pourquoi en est-il ainsi? Et lorsque vous posez cette question, elle nécessite une descente sur terrain. Et la descente sur terrain est sociologique.
quel que soit le domaine de vie, il faut une descente sociologique pour gérer la, pour étudier l'environnement, étudier le comportement des êtres vivants dans cet environnement, déceler les raisons. Donc, les raisons sont comportementales, notre gestion doit s'améliorer, on ne peut pas toujours dire, nous ne sommes pas tous jeunes comme êtres humains, nous ne sommes pas tous jeunes comme intellectuels, nous ne sommes pas tous jeunes comme experts, mais la démocratie ne peut pas nous absorber parce qu'elle a été perdue, elle est jeune, mais nous, amenons-la à maturité. C'est pourquoi le parti le Mouvement Unifié, notamment, sentant ce poids du devoir de maturité, parce qu'il est cinquantenaire, alors, il initie des réflexions avec tous les Congolais, de tout bord, pour réfléchir sur toutes ces questions que les auditeurs, que l'opinion, que les Congolais sont en train de se poser, afin que nous puissions déceler les maux, les faiblesses, et que nous puissions y donner suite favorable pour le mieux-être de nos populations. Donc, c'est déjà bon parce que les faiblesses sont là, il y a aussi des avancées, mais alors, parce qu'elles sont décelées, travaillons juste. Mais c'est ce qu'un des auditeurs avait dit, on ne doit pas avoir un Parlement et seulement des opposants et des majorités, et même pas d'autres institutions. Le président Kabila a innové dans le domaine aussi de la démocratie, dit, nous ne pouvons pas rester dans l'orthodoxie de la démocratie telle que la majorité qui gagne le pouvoir gouverne et tienne soin les opposants, l'opposition, où il y a aussi une expertise importante pour la nation. C'est alors qu'il a promis de mettre à la disposition des Congolais un gouvernement de cohésion nationale. Et nous sommes très rassurés que dans ce gouvernement de cohésion nationale, toute cette expertise, toute cette conscience par rapport au comportement, par rapport au mental, tout ce qu'il faut donner, et nous considérons que le sélectionnaire est en train de tenir compte de tous ces desiderata pour que tout soit mené à bon port.
Voilà, on va évoluer avec d'autres questions juste après. Le temps de repasser à nouveau de l'autre côté du standard. Martin Patrick est à Kananga et Robert à Kinshasa. Martin Patrick, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à l'invité, le secrétaire général de parti, le Mumbiste Unifié. Bonjour aussi à tout le monde qui suit cette radio pour nous.
Voilà, pour vous, dans votre message, vous avez parlé plutôt des intérêts personnels, au lieu que ce soit l'intérêt commun dans l'exercice parlementaire aujourd'hui. Vous avez dit dans votre message que vous avez envoyé sur notre page Facebook qu'aujourd'hui, certains, en tout cas, vous l'avez bien nuancé, certains parlementaires ou certains députés travaillent pour leur propre intérêt.
Tout à fait, JR, je corrobore mon commentaire posé sur Facebook pour dire que nos députés nationaux qui siègent à la Chambre basse travaillent pour leur poche. Pourquoi ? Parce que toutes les lois qu'ils fassent, qu'ils trouvent leur intérêt dans toutes ces lois-là, et ils le poursuivent avec beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'au bout. Mais ils trouvent que peut-être c'est pour l'intérêt de la population qui est peut-être les souverains premiers, parce que c'est nous, population, qui avons envoyé tous ces députés-là à la Chambre basse. Alors, nous attendons quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est les rapports. Ils votent des lois, il y a l'exécution. S'il n'y a pas d'exécution, ils doivent suivre jusqu'au bout.
Mais Martin, si peut-être on peut quand même revenir sur certaines choses, parce qu'à l'ouverture de la session parlementaire, nous assistons par exemple à des sessions ou à des congrès entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dans des mots de circonstances, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou du Sénat, il y a des mots qui vont dans les sens de donner la feuille de route par rapport à ce qui doit être fait. Et même à la clôture, on assiste quand même à des rapports qui sont faits, des bilans qui sont établis par les deux présidents, donc de deux chambres du Parlement. Donc déjà, la population se fait quand même une idée sur le travail qui est déjà fait, j'imagine.
Je ne pense pas, parce que c'est nous qui pouvons faire ce bilan-là. Parce que
contre, ils préfèrent que...
Bah, alors, vous faites quel bilan? Quel est votre bilan? Comme les autres ont dit, c'est un bilan mitigé.
Le bilan des parlementaires, c'est vraiment négatif du fait que, c'est par exemple, l'Assemblée de... Parce que moi, je suis à Kananga, l'Assemblée provinciale du Qatar du Lajas, qui a voté deux motions contre les quelques ministres provinciaux, et les a démissionné bien avant la première. Et l'autre qui est resté, il faut demander, voter la population.
Oui, Martin, nous avons dit, on va faire l'évaluation de chaque assemblée provinciale au cours de cette émission. Donc, vous gardez, prenez votre mal en patience. Donc, argumentez vos propos. Donc, nous allons y revenir peut-être dans une ou deux semaines pour faire le tour de la République et aussi nous faire une idée sur les activités qui ont été réalisées au niveau des assemblées provinciales. Merci beaucoup, Martin, d'avoir appelé de Kananga. Robert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, Robert. Quel est votre point de vue?
Je m'excuse. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Bonjour à tous les amis qui sont là.
Merci.
Pour le bilan de la législature pour cette année, bon, tout le monde, surtout notre invité, il l'a dit, et ils ont fait beaucoup de production de lois, mais presque pas d'interpellation ni de contrôle parlementaire en général. Alors, c'est presque toute la législature, depuis que ça a commencé, depuis Kamer et le Moshab, et même aujourd'hui, vous avez vu la grande scène qui s'est produite lorsqu'on voulait interpeller le ministre des Finances.
Oui, Robert.
Robert,
c'est un dossier qui est déjà clos. Quand le Parlement s'est déjà prononcé sur une question, on ne peut même plus y revenir. C'est dommage. Donc, je suis désolé.
Oui, c'est vrai. Alors, je disais donc, je dis que la production parlementaire devait aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas eu grand chose en matière de contrôle parlementaire du tout, ou presque rien. Donc, c'est mon point de vue, je ne voulais pas allonger les choses pour reprendre tout ce que les autres ont dit. Il y a une négativité. C'est négatif.
Oui, alors notre invité parlait tout à l'heure, Robert, de problèmes comportementaux, également de l'expérience, hein, l'expertise, si vous voulez, parce que c'est vrai, il y a certains députés qui apprennent sous l'État, donc les assises parlementaires.
Oui, mais il y a des députés justement qui sont là uniquement pour soit pour applaudir, soit pour dormir. Donc ils n'ont aucune comment je t'appelle ça. On ne voit pas la pertinence et l'essence de la défense du peuple. On doit défendre le peuple. Quand on a voté des lois, on doit suivre leur application et éventuellement interpeller les personnes qui sont lassistes.
Merci beaucoup, Robert. On revient à vous, notre invité, professeur Willy Makiachi. C'est vrai, la question relative aux mesures d'application à ce niveau, au niveau de l'exercice parlementaire 2014, on n'a pas senti le Parlement à vouloir contraindre le gouvernement à sortir des mesures d'application. Parce qu'il y a eu plusieurs lois, mais nous avons vu la lanterne quand même au niveau de certains ministères de vouloir proposer des mesures d'application de certaines lois. Nous pouvons peut-être en citer quelques-unes, mais peut-être que vous avez aussi une idée par rapport à ça.
Oui, vous avez bien raison. Lorsqu'on parle de mesures d'application, pour ne pas aller très loin, on passe d'abord à la loi des finances elle-même. Vous avez suivi qu'il y a eu un débat sur la réduction des comptes de l'exercice 2016 au regard du rapport fourni par la Cour des comptes. Vous avez suivi que tous les députés était unanime, tant majorité qu'opposition. Pour cette fois-là, tout le monde était unanime que c'était un déboire, que le budget n'est pas exécuté. C'est déjà le non-respect de la loi des finances. Et qu'est-ce qui va être respecté? Donc, l'exécution n'a pas été au point. Et pour cette raison, le gouvernement de cohésion nationale en vue va également tenir compte de tout cela, parce que le président de la République qui gère la République, il suit tout cela. Les sanctions ne sont pas toujours immédiates, vous savez, parce que en répondant à notre auditeur et à notre intervenant de Suisse, c'est vrai, mais vous savez, il y a aussi l'aspect politique, une majorité ne se sanctionne pas. Les parents ne sanctionnent pas nos enfants dans une maison parce que les voisins se sont venus leur faire voir les fautes de leurs enfants, quand bien même les fautes sont consommées. Et par après, vous trouvez une autre mesure, une autre procédure pour sanctionner. C'est pourquoi il y a des remaniements, il y a des démissions, il y a des révocations. Donc le gouvernement Gizenga, le gouvernement Mozito, le président Kabila a révoqué plus d'un ministre. C'est également des sanctions au sein de la majorité. Et je l'ai dit en France, Cahuzac, l'ancien ministre des Finances, mais il a rendu le tablier sans être parti au Parlement, donc les choses avaient été précédées. Donc la sanction doit être là. Les contrôles, disons, les mesures d'application, c'est aussi une autre faiblesse. Mais ce n'est qu'une conséquence, parce que la faiblesse est en amont. Comment vous pouvez trouver une défense en aval? Nous l'avons dit, on le répétera, parce que les mêmes causes ne produisent que les mêmes effets. Donc lorsque les comportements n'est pas au point, on ne vise pas l'intérêt général, on n'a pas l'expertise, on n'est pas un esprit sain pour que dans un corps sain, que les choses soient bien faites pour les autres, mais ce sera de la peine perdue. Mm-hmm. Je l'ai dit, lorsqu'il y a une révision des responsabilités, des procédures et autres au sein de l'armée, vous avez vu que notre armée a quitté la jeunesse d'il y a une cinquantaine d'années pour une maturité au bout de quelques jours. Ça fait que nous sommes déjà matures, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, la réalité est en nous, l'expertise est en nous, elle est avec nous. Mais la volonté qui doit se traduire dans ces comportements qui visent l'intérêt général. Donc la loi des finances déjà avec la reddition des comptes, tous les députés, tous les parlementaires l'ont décrié, ça n'a pas été exécuté normalement et beaucoup d'autres mesures d'application n'ont pas été exécutées telles. Je dis que ce n'est qu'une conséquence dans une gestion où les gestionnaires sont décriés, où les systèmes, les institutions, et donc on n'a pas encore tout mis au point. Donc c'est un problème des gestionnaires aussi. Voilà. Il faut changer de gestionnaire partout où les faiblesses sont constatées. Et ça, le président de la République le sait, il l'a dit, il l'a promis. Il a dit, voilà. Congolais, après les concertations nationales,
professeur Winnie
Professeur Winnie,
Jean-Claude, vous êtes à Kamina. Dieu merci à Manono. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour. Je voudrais intervenir sur l'aspect production du Parlement sur les lois. En tout cas, il y a quelque chose à déplorer. Bien que nous apprécions beaucoup de lois qu'ils ont produites, mais il y a quelque chose à déplorer puisque, à notre attente, nous croyons qu'il y avait des priorités qu'ils devraient vraiment sur lesquelles ils devraient s'atteler plus. Par exemple, sur la loi organique sur la décentralisation. Ici, nous attendons nos 40% à retenir à la source. Mais cette loi traîne encore. Voilà que la loi sur la décentralisation souffre à cause de ces retiens de loi. Or, ça serait parmi les prioritaires. Il y a, par exemple, la loi organique sur la libéralisation dans le secteur énergétique de la SNEL et tout ça. Ça devrait être parmi les prioritaires, puisque vous savez, il y a des investisseurs qui peuvent s'engager dans ce secteur-là, mais ils s'attendent encore à cette loi organique. Alors, cela serait parmi les prioritaires plutôt que de passer tout le temps à voter d'autres lois, bien que nécessaires, bien sûr, nous les avons. Mais quand même, prenons et nous devrions miner surtout sur la priorité. Et puis, sur l'aspect contrôle parlementaire, nous, on se demande d'abord, pour quel but est-ce qu'ils le font? Puisqu'il n'y a pas longtemps, quand ils vont dans le contrôle parlementaire, ils nous amènent des rapports. Mais des rapports doivent être suivis par des sanctions. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, quelle conception est-ce que nous avons sur le contrôle parlementaire? Pour moi, la conception que j'ai, c'est un contrôle comme l'inspecteur. Et l'inspecteur, quand il contrôle, il sanctionne et positivement et négativement. Quand ça ne va pas, on sanctionne négativement. Quand ça va, on sanctionne positivement. Regarde, par exemple, ici dernièrement, avec les rapports de réduction des comptes, le gouvernement n'a exécuté que 63% du budget. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, le gouvernement n'était pas à la hauteur de mobiliser les recettes, alors que la loi même, la loi budgétaire a été votée. Et en équilibre, en dépenses et en recettes. Mais voilà maintenant, quand ils sont arrivés à 63%, vous savez combien de secteurs ont souffert de ce manque-là de mobilisation des recettes. Alors, cela devrait être suivi d'une sanction. Ça devrait être suivi d'une sanction.
Alors, c'est ce que, en tout cas, je voudrais intervenir et demander à notre auditeur, à notre invité qui est sur le plateau, qu'il nous parle un peu. Qu'est-ce qui bloque ces lois organiques? C'est quoi? C'est la politique ou c'est quoi au juste?
Merci.
Nous en pouvons, ça fait déjà deux mandatures qui va se terminer.
Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé les Kamina au Katanga. Nous allons dire simplement, par rapport à votre intervention, que vous souhaiterez qu'on puisse quand même prioriser certaines lois. C'est vrai, vous avez salué les deux mains comme les autres, qu'il y a eu effectivement une production législative très significative, mais vous regrettez une chose, hein, on n'a pas pu prioriser. En tout cas, en termes de priorité, il faut savoir quelles sont des lois qui sont prioritaires par rapport aux autres. Voilà. Donc, nous allons revenir à notre invité dans un instant, et vous décriez également le fait que le contrôle ne se fait pas, en tout cas en respectant les normes. Vous avez cité quelques lois qui doivent normalement, disons des lois qui doivent subir quand même le bénéfice, hein, de l'urgence quant à son exécution. Alors Dieu merci, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
Vous avez la parole, Dieu merci.
Oui monsieur le journaliste, moi vraiment, pour moi c'est grave, il ne faut pas encore parler de la faiblesse pour le contrôle parlementaire. C'est très grave, monsieur le journaliste, pour un pays comme la RDC qui se débrouille encore pour son développement. Moi, ce que je déplore, c'est quoi? Il faut donc les députés ne doivent pas chercher à donner la chance aux gens vraiment rongés par la gestion de détourner, de sorte de contribuer plus au détournement à répétition dans notre pays. Et comment le télévisualité va se développer? Les contrôles, c'est l'une des façons de peu participer, le peuple qui a donné le pouvoir à ces députés. Mais s'ils doivent s'abstenir à faire le contrôle, et se féliciter pour les lois qui multiplient. Moi, je peux me ranger à cet auditeur qui a parlé des lois parfois qui ne sont même pas fournies du public. Mais ce que nous avons demandé aux députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ils ne doivent pas seulement se mettre là pour favoriser, soit pour défendre les groupes politiques, au détriment des bases ou bien de la population qui a donné le pouvoir à ces députés. Ils doivent faire le contrôle. S'ils évitent le contrôle, alors ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons constaté le Parlement de notre pays.
Voilà, et merci. Oui, voilà, merci beaucoup, Dieu merci, d'avoir appelé de Manono 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, professeur Willy Makashi, vous venez de suivre quelques auditeurs encore. Il y a quelques-uns qui ont parlé quand même en ce qui concerne la priorité, hein, dans ce qui concerne comment il faut prioriser certaines lois. Et il y a eu l'intervention d'un auditeur qui allait dans le sens de vouloir un peu nous expliquer la conception de la notion de la majorité aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire par rapport aux raisons que vous avez avancées de la faiblesse du contrôle parlementaire, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre en compte également cette conception de la notion de la majorité qui fait quand même défaut, hein. Les gens pensent qu'il faut quand même soutenir, il faut défendre même les défendables. Voilà, le professeur Makashi n'est plus en ligne, on va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous, Maurice?
Oui, bonjour, Gilles Lungembo.
Vous avez la parole, Maurice.
En fait, je pense que mes prédécesseurs ont dit sauf l'essentiel, mais à l'écrire, ils m'ont laissé comprendre, entendre, comme si il existait seulement deux missions dévolues à l'Assemblée nationale ou au Parlement. En dehors de deux missions qui ont été exploitées depuis le début, il y a une troisième mission qui est celle de la représentation du peuple. En fait, cette fonction, la fonction de la représentation du peuple, découle de la notion de la démocratie, qui peut se définir comme les pouvoirs du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple devait lui-même se mettre aux commandes des affaires politiques, et en cas de besoin, décider lui-même de son sort. Cette forme de démocratie directe et participative est difficile à pratiquer en l'état actuel des choses. C'est pourquoi la démocratie indirecte ou représentative est devenue la règle. Alors, pour revenir un peu à ce que je venais de dire.
Oui, rapidement, bon,
dans les
vous
allez comprendre que la législature de Kanere, la législature de Bossab, comme celle de Minamku, tout le monde, en fait, chacun d'eux s'est dit que non, c'est la législative, c'est ma législative. En fait, il y a eu plus de production de lois. En fait, le pays ici n'a plus besoin de lois, en fait. On en a plusieurs, on en a beaucoup, énormes dans ce pays. Mais ce qui tue ce pays, c'est les contrôles. Comme il n'y a pas de contrôle, c'est parce que le pays se jette en club d'amis. Ceux qui sont au Parlement, ce sont ceux-là qui concoctent le mal et le mal exécuté par ceux qui sont au gouvernement.
Voilà, merci beaucoup, Maurice, parce que vous allez se faire l'envoyer. On va prendre quand même notre invité pour prendre la conclusion en 2-3 minutes. Professeur Willy Makashi, vous êtes honorable député national, secrétaire permanent et porte-parole de PALU. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 minutes? Et si vous pouvez peut-être répondre aussi aux préoccupations des uns et des autres qui intervenaient tout à l'heure la dernière série des auditeurs.
Merci beaucoup. Cette inquiétude de les tout derniers par là d'un club d'amis. Non, il n'y a pas de club d'amis. Les auditeurs doivent savoir qu'il ne suffit pas qu'une question soit posée et qu'on puisse déchoir un ministre, un membre du gouvernement. J'ai dit qu'en conclusion, les contrôles parlementaires ne concernent pas que le gouvernement. Ils ne concernent pas que d'abord le gouvernement, parce que c'est la première des institutions qui régente les autres services publics. Tous les autres services publics relèvent de tel ou tel ministère. Ça, c'est normal que ce soit d'abord le gouvernement, en priorité. Mais pas seulement le gouvernement. Alors, le contrôle parlementaire doit s'étendre à tous les services publics, jusqu'à l'administrateur des territoires, jusqu'au chef de secteur, parce que ce sont des services publics, ils détiennent une parcelle du pouvoir public. Ils ne sont pas contrôlés. Et ça, il faut que les parlementaires se mettent, qui leur a interdit. Qui a interdit aux parlementaires d'étendre les contrôles parlementaires. Alors, vous voyez, même l'opinion, tout le monde qui intervient ne parle que de tel ministre, de tel du gouvernement. Vous voyez, déjà la conception du contrôle parlementaire est mal perçue par les parlementaires eux-mêmes, et donc l'opinion, c'est la conséquence. Mais à quel niveau y a-t-il cette barrière? Voilà le problème dont nous parlions. Il faudra qu'on se mette en tête que ce sont les services de l'État dans leur ensemble qui doivent subir les contrôles. Si le ministre s'est fait enlever, mais peut-être que le malaise ne provient pas de son cabinet, ça provient d'un autre secteur de l'administration relevant de son ministère. Il doit être regardant. Et les contrôleurs doivent regarder, et le ministre, et toute la chaîne, pour ne pas encourager tous les tricheurs, les fraudeurs et tous les perturbateurs en aval, parce qu'ils ne sont jamais touchés. Un chef de secteur n'est pas contrôlé dans ce territoire, un bourgmestre, un chef d'entreprise et tout. Alors maintenant, ils vont se frotter les mains pour dire, c'est le ministre qui sera interpellé, et qu'est-ce que moi j'ai à voir? Ça, c'est de un. De deux, nous devons reconnaître que lorsque nous contrôlons, c'est pour des objectifs à atteindre, et donc l'amélioration de la gouvernance, donc de la gestion de la chose publique. Et c'est là pour quelle cause? Pour le mieux-être des Congolais et donc pour qu'il y ait la justice distributive, que tout ce qui est à l'État revienne à la communauté nationale. Alors ça, on doit se le mettre. Et pour cela, il ne suffit pas d'appeler les chefs du gouvernement ou un membre du gouvernement pour les déchoir. Mais parce qu'on veut atteindre ces objectifs-là. Est-ce que pour les déchoir, l'objectif est-il atteint? On va trouver un autre, on peut déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Voilà,
on a plus la correction. On doit corriger, et corriger n'est pas toujours dans les états d'une tension négative. Mais lorsqu'il le faut, la tension peut tomber. Sur le plan politique, il faut reconnaître qu'une majorité ne se rentre pas dedans. Il n'y a pas d'exemple à donner dans les
voilà.
les compatriotes et intervient ensuite.
Merci beaucoup, donné... professeur Willy Makashi. Nous rappelons que vous êtes honorable député national, secrétaire permanent et porte-parole de PALU. Vous avez accepté notre invitation pour parler de l'évaluation de l'exercice parlementaire 2014. Merci, à très bientôt. Nous disons également merci à Jean-Claude Tiala, Pierre Lamégie, Julie Faisabongonda qui ont concouru à la production de ce programme coordonné présenté par J.R. Lungebo sous la supervision de Léonard Moulamba. À très bientôt. Merci encore de votre fidélité à Radio Capine, mesdames et messieurs.